Il est 17h et c'est donc l'heure du Point Asso. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Thierry Poli, coordinateur de la Maison de la Loire. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Alors pour se situer un peu, la Maison de la Loire, c'est donc une association qui est basée à Montlouis-sur-Loire et qui se donne pour mission de sensibiliser le grand public au thème de l'environnement, informer, éduquer et faire découvrir le patrimoine naturel et culturel de la Loire. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les valeurs qui sont défendues par la Maison de la Loire ?
Alors la valeur première, on va dire, c'est de faire découvrir et de ne pas, entre guillemets, militer dans le sens extrême du terme. Hein. Le but, c'est effectivement qu'au militantisme, on ait la mise à portée de la Loire et de ses milieux naturels, du patrimoine, les moyens documentaires et la découverte sur le terrain, c'est-à-dire faire découvrir, protéger en faisant découvrir. Donc finalement, c'est extrêmement militant, puisque nous sommes une association qui a dans ses agréments l'agrément de protection de la nature, mais c'est au travers de la pédagogie, de la découverte et de l'information que l'on fait cette mission. Donc les valeurs qui sont liées à ça, forcément, c'est évidemment d'être populaire, d'être accessible, de s'adresser au plus large public, d'être relativement consensuel, c'est-à-dire être doué d'écoute, mais aussi essayer d'être accessible à tous.
Donc c'est important pour vous de continuer à entretenir du coup notre planète, à la respecter et à la faire découvrir à tout le monde.
Alors déjà, pour le bassin de la Loire, c'est déjà lourd, toute la planète, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est intéressante dans votre question, c'est que effectivement, quand on fait de l'éducation à l'environnement et de l'animation sur la Loire, quand on est une maison de Loire, il faut savoir qu'il y a deux pendants, en fait, à cette éducation. Il y a un peu éduquer pour et éduquer par. C'est-à-dire que la Loire, c'est un formidable terrain d'action pour éduquer et sensibiliser sur les thèmes de l'environnement. Et en même temps, mieux connaître son environnement, son territoire et les différentes thématiques, bah, c'est forcément aider le fleuve à être mieux compris et ça permet de mieux agir.
Eh bien, justement, vous avez sorti récemment la programmation de vos activités qui vont de juillet à décembre. Alors, vous y proposez des sorties de terrain. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce qui est l'idée de ces sorties ? Quel est l'intérêt de ces sorties de terrain ?
Alors, en fait, toutes les Maisons de Loire et d'autres associations font ce que l'on appelle des sorties nature, des sorties de terrain. Pardon. Et c'est quelque chose d'assez fort dans l'activité des Maisons de Loire. Nous n'échappons pas à cette règle, tant mieux. Donc le but d'une sortie, c'est effectivement, on parlait de valeur tout à l'heure, c'est de bien rester sur la valeur, à savoir que la découverte nature, c'est une découverte qui va donner au public du savoir, mais qui va le mettre un petit peu en immersion dans le milieu naturel. Le milieu naturel, c'est pas forcément la Loire, mais en situation d'immersion et en situation de participation. Ça peut être au laboratoire, ça peut être aussi en salle, hein, ça peut être en atelier, ça peut être sur la Loire ou sur un de ses affluents. Donc la première valeur, c'est ça, c'est d'être sur le terrain et d'être en connexion avec, si ce n'est le fleuve ou le cours d'eau, avec les éléments qui sont totalement liés. L'autre aspect aussi, c'est de pratiquer une sensibilisation, une animation qui soit vertueuse et qui soit respectueuse de l'environnement. Ça paraît évident, mais ce n'est pas forcément le cas chez tout le monde. Hein. Donc ça veut dire de pratiquer la découverte nature avec des petits effectifs, des effectifs adaptés, de travailler sur une durée intéressante. Nos animations, très souvent, nos sorties en tout cas, sont calées sur des formats de 2 heures. Ça laisse le temps. Donc quand on conjugue la faiblesse, enfin entre guillemets, l'effectif raisonnable et la durée de la prestation, ça permet d'avoir un produit pédagogique avec une très forte appropriation pédagogique. Donc ça, c'est un petit peu les deux principaux incontournables qui font des animations nature qu'on trouve dans les Maisons de Loire ou ailleurs, des produits, on va dire, de qualité. Alors, sur là-dessus, je peux dire un petit peu, parce que ça fait quand même 25 ans que je suis à la Maison de la Loire, c'est qu'effectivement, on parle aujourd'hui de tourisme de nature. Il faut savoir qu'il y a, 20 ans, quelqu'un qui faisait une sortie nature sur le terrain, finalement, il était regardé un petit peu bizarrement par le monde du tourisme, comme si c'était quelque chose qui était réservé aux adhérents à la vie associative. Aujourd'hui, la nature n'est plus un vide. C'est devenu, heureusement, un patrimoine, avec tout ce que ça comporte, pas seulement naturel, mais aussi patrimoine bâti, et aussi, surtout quand on est sur le bassin de la Loire. Donc, en fait, tout ça, fait qu'aujourd'hui, on vient pratiquement nous chercher pour aller faire de la découverte nature touristique. Donc ça, c'est une évolution qui a été très positive. Et donc nos sorties, c'est vrai qu'elles remportent quand même un certain succès, mais il n'y a pas que nous, les associations qui ont des salariés en tant qu'animateurs, l'attestent.
Et donc justement, il y a une sortie de terrain qui a lieu le 16 juillet. Donc c'est une sortie sous le thème entre étang et Loire. C'est une balade. Donc quel va être le but ou qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir pendant cette balade?
Alors là, c'est une sortie qui va se dérouler à Amboise, au plan d'eau de la Varenne sous Chandon. Alors l'intérêt, je dirais, il est multiple. D'abord, c'est qu'on ne reste pas à Mont-Louis. La Maison de la Loire pratique des animations sur d'autres territoires. Alors, il y a Amboise, il y a Tours, le bord du Cher. Il y a plusieurs secteurs. Parce qu'il ne faut pas croire que la Maison de la Loire est en face à un site naturel protégé, géré par le Conservatoire des espaces naturels du Centre, qu'on va dire qu'on a une approche qui est liée, entre guillemets, à des sites de qualité et qu'on délaisse le reste. Alors, la Loire, c'est un peu partout. Il y a deux grandes composantes, la composante entre guillemets environnementale, naturelle, et puis la composante humaine. Et les deux se conjuguent pour faire des sites qui, quelquefois, sont plus riches en patrimoine ou en humanisation que en espace naturel, et réciproquement. Dans tous les cas, on a des sites qui sont ligériens. Nous, on mise beaucoup notre réflexion sur l'espace fluvial. Et l'espace fluvial, ça veut dire que ce n'est pas le bord de l'eau. Ce n'est pas là où on va observer la plante ou l'animal. C'est quelque chose qui est plus complexe et qui est lié aux interrelations que l'on voit avec un sujet et son territoire, y compris l'homme. Donc en fait, l'intérêt, là, pour répondre plus pratiquement, l'intérêt d'aller sur le site de la Varenne sous Chandon, c'est que le site de la Varenne sous Chandon, c'est une ancienne carrière qui a été réhabilitée en étant de loisirs. Alors on pourrait penser qu'effectivement, on va dire que c'est pas très top pour un animateur nature. Mais finalement, il y a une connexion avec la Loire et ça permet deux volets. De voir comment une carrière a été réhabilitée pour devenir un milieu, alors peut-être pas un milieu naturel, mais qui a quand même subi les actions de l'homme, pas l'ignorer. Mais en même temps, c'est une formidable fenêtre pour observer le lit de la Loire, puisque ce plan d'eau, qui était une ancienne gravière exploitée, est dans le lit majeur et il est complètement connecté, visuellement en tout cas, au fleuve. Donc voilà, d'où le titre « Entre étangs » et Loire, pour montrer que tout site peut avoir aussi des composantes entre guillemets sauvages et des composantes un petit peu plus anthropisées. Et puis là, ça permet aussi d'avoir une autre valeur ajoutée, c'est-à-dire d'atteindre un public là où il est, c'est-à-dire le public qui fréquente le site, qui vient s'y promener, des gens qui finalement n'ont pas forcément la démarche de faire de l'animation nature.
Oui, d'appuyer leur recherche, on va dire, ou leur connaissance.
Tout à fait.
Ok. Il y a aussi une autre sortie de terrain qui est Saveur et Secret de Loire à Mont-Louis-sur-Loire. Donc ce sont quatre balades qui sont prévues cet été. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à associer donc cette sortie de terrain à la fin à une dégustation dans une cave vigneronne?
Alors c'est vrai que c'est une initiative qui est partagée avec les caves de Mont-Louis et même avant, bien avant cela, des viticulteurs et l'office de tourisme qui à l'époque était l'office de tourisme de Mont-Louis mais aujourd'hui qui est l'office de tourisme de Mont-Louis-Vouvray. Alors c'est une idée qui nous trottait tous dans la tête, qui était évidente parce qu'à un moment donné, je veux dire, Mont-Louis étant une commune avec des caves, la Loire étant complètement liée à la problématique du vin, les coteaux aussi, enfin voilà, là encore ça permettait. Ça nous trottait dans la tête il y a déjà très longtemps. Ça permettait de réinclure l'environnement dans quelque chose d'un petit peu plus réel. Je parlais d'espace fluvial et un peu plus humain. Ça veut dire que lorsqu'on prend les trois gros éléments visuels, qui sont le lit du fleuve, le coteau et cet aménagement que l'on a sur la relation vigne et cave et utilisation, ça permettait de voir aussi qu'historiquement, la Loire a joué un rôle dans l'acheminement des marchandises, donc du vin, que sans le coteau calcaire et sans la Loire, finalement, on pourrait se poser la question, est-ce que le vignoble il aurait pu se développer à Mont-Louis comme ailleurs? Donc en fait, cette réalité-là, elle est aussi apparue nécessaire lorsque la Loire a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. C'est là-dessus que je crois qu'on a enclenché ces sorties, qui se font tous les ans, Et puis, c'est aussi quelque chose qui, alors je ne la placerai pas comme une valeur, mais c'est bien pratique quand même, c'est que dans un format de sortie, rien n'empêche la convivialité et le moment agréable de rafraîchissement et de dégustation. Il faut mettre plusieurs ingrédients. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est le partenariat. C'est-à-dire que travailler ensemble sur ces sorties, les mener conjointement, les communiquer, je dirais, de concert, ben, ça nous semble très important parce que, là encore, le sens de l'inscription de la Loire dans le patrimoine mondial, c'était de décloisonner les différents aspects, de rassembler les acteurs et aussi les savoir-faire. Bon, c'est peu de choses, mais ces quatre sorties-là, ça permet aux touristes de pouvoir participer et redécouvrir autrement la Loire. Mais j'insiste aussi lourdement là-dessus, ça permet aux Montlouisiens de redécouvrir leur fleuve et leur patrimoine viticole.
Oui, de réussir à faire un lien entre chaque domaine.
Tout à fait.
Et donc, il y aura aussi d'autres sorties jusqu'en décembre, des sorties de terrain. Mais vous faites aussi des ateliers, et pas n'importe où, sur l'île de la Métairie. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire des sorties sur ce lieu en particulier ?
Alors en fait, il s'agit d'ateliers en poste fixe. C'est complémentaire à nos sorties de terrain. Les sorties qu'on évoquait tout à l'heure sont des sorties qui nécessitent de réserver. Donc le public va réserver à la Maison de la Loire. C'est l'open billet, c'est une réservation sur notre site internet. Et là, du coup, le concept est complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes postés sur l'île de la Métairie, au kiosque. Et je précise tout de suite que c'est grâce au département, conseil départemental, que cette offre pédagogique existe depuis des années. Donc, c'est évidemment gratuit. Donc, nous sommes en poste fixe au kiosque avec un petit atelier thématique. Ça peut être le castor, ça peut être les moulages d'empreintes, ça peut être la fabrication des crayons de type fusain, ça peut être les poissons. Et les gens qui se promènent sur l'île viennent, nous rencontrent, sont étonnés de voir deux personnes en train de s'activer autour de matériel, de petits modules d'expo, de silhouettes animalières ou autres. Et donc, en fait, là, c'est vraiment la liberté qui nous sert d'élément de capture, si j'ose dire, c'est que ça permet aux gens de venir se promener, de nous ignorer ou pas. Et finalement, ça marche vachement bien. Et les gens reviennent d'année en année, au point que les grands-parents amènent les petits-enfants. Et c'est vraiment la liberté totale. Et ça permet une autre lecture aux promeneurs de l'île. C'est-à-dire que ça renvoie évidemment à des thèmes de Loire et des thèmes de l'environnement. Donc ça permet de capturer les gens et de les réinclure dans quelque chose de plus large.
Oui, de nouveau, vous arrivez à apporter des connaissances à ceux qui viennent d'habitude, mais qui n'ont pas forcément le réflexe de voir ce que vous montrez.
Exactement.
Donc, ce sont beaucoup des ateliers pour les enfants, généralement. Quel est l'objectif pédagogique derrière ces activités ?
Alors, pas que pour les enfants, parce que là, justement, sur l'île de la Métairie, c'est voilà, famille. Le public que l'on vise beaucoup, c'est la famille. Dans les sorties grand public que l'on a, la cible, vraiment, c'est la famille. Nous avons un fort public scolaire. Bon, effectivement, le lien est mince, sauf quand les parents sont évidemment complètement enclins à découvrir la nature. On n'a aucun souci à faire passer l'information. Par contre, sur ces ateliers en poste fixe, les enfants ne viennent pas seuls. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est souvent les grands-parents même, des fois, qui emmènent des enfants, au point que, des fois, ils nous sont très demandés des ateliers en période de vacances scolaires, mais hors zone. Parce que les petits étant en vacances chez leurs grands-parents dans notre région, bah, des fois, les gens se plaignent parce qu'on n'a pas prévu d'atelier sur les vacances hors zone. Ça peut paraître, ça fait sourire, mais ça montre bien que les publics demandent ce genre de découverte. C'est-à-dire d'abord être libre. Alors là, en plus, avec le Covid, là, c'est particulièrement vrai. Les gens demandent à ce qu'on leur tende la main, mais ils ne veulent pas qu'on la prenne. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent rester libres de leur découverte, tant sur la gestion du temps que lever la contrainte de la réservation aussi. Donc c'est vraiment l'autre pendant de notre activité d'animation en direction du grand public. Les deux sont nécessaires pour l'une, je dirais, cherche à promouvoir l'autre forme.
Eh bien, justement, donc il y a plusieurs ateliers comme ça qui sont prévus cet été, notamment un qui aura lieu le 21 juillet, c'est moulage d'empreintes. Alors, comment va se passer cette activité qui est assez délicate ?
En fait, le but, c'est de permettre à chacun, avec un petit matériel rudimentaire, de montrer d'abord que faire des moulages d'empreintes, c'est pas si compliqué que ça. Ça demande un petit peu de méthode, mais on va montrer, on va faire mouler des empreintes. Et après, ben, ce qu'on souhaite, c'est que c'est reproductible, c'est-à-dire que les petits et les grands peuvent faire ça, je dirais, à la limite, beaucoup mieux et beaucoup plus artistiquement. Mais le but, c'est de s'approprier une méthode, là encore, de découverte et d'avoir un lien avec son environnement. Et surtout, d'être curieux, d'activer la curiosité, l'éveil, et d'aller non pas prendre pour argent comptant ce qu'on dit, mais simplement d'aller vers, de façon... Alors, les traces et les empreintes, c'est très emblématique de la recherche, hein, de la découverte sur le terrain. Bon, quelqu'un qui est passionné ne va pas avoir de mal, je dirais, à découvrir des empreintes et avoir envie de faire un moulage. Mais finalement, on capture aussi les personnes sur le côté ludique de la chose. C'est-à-dire un petit peu la cuisine, si j'ose dire, la recette de cuisine. Ce qui donne, en fait, c'est l'activité qui va mener à l'objectif, en fait.
Et il y a aussi les petites bêtes des bords de Loire. Est-ce que c'est facile de réussir à les observer, justement, en cette période ?
Alors, les petites bêtes des bords de Loire, en fait, là, il s'agit d'insectes, hein, principalement. Là encore, le but est de rechercher des insectes. Alors, ce qui est important aussi, c'est là-dedans, on parlait de valeur, c'est de montrer aux gens que, finalement, d'abord, il faut bien chercher pour trouver. Il ne faut pas se contenter que ça vienne. Il faut aller un petit peu rechercher. D'autre part, on ne capture pas des insectes n'importe comment. Et notre posture, c'est plutôt d'apprendre à les protéger. Donc, on demande à notre public d'aller chercher, mais on va chercher à promouvoir d'autres outils que la capture et le côté létal de la chose, c'est-à-dire la photo, le dessin, la découverte. On peut tout à fait observer un insecte et je veux dire s'y intéresser sans être obligé de le tuer, de le mettre dans une boîte. Alors, je ne suis pas en train de dénigrer les entomologistes qui font ce travail, parce qu'une certaine partie du naturalisme, effectivement, est liée à la fabrication de collections. Et malheureusement, bon, il faut, quand on est un spécialiste, il faut avoir recours à ce genre de méthode. En tout cas, nous, il n'y a pas question, en tant qu'éducateur à l'environnement, animateur, de faire, je dirais, dézinguer des bestioles. Ce n'est pas notre truc. D'autres le font mieux que nous. Et nous, c'est plutôt une forme de découverte simple, réelle et accessible, et surtout sans aucune, sans aucune angoisse, sans aucune... Et puis, il y a aussi ce monde de l'insecte, qui mérite d'apporter de la désensibilisation par rapport aux peurs, par rapport aux craintes.
Oui, et de garder aussi le respect de
Exactement.
L'habitat de l'insecte. Et aussi, donc, parmi votre programme, on retrouve les ateliers enfants. Donc, il y a notamment un qui a lieu le 20 juillet, qui s'appelle Mon carnet de nature. Qu'est-ce que vous faites concrètement pendant ces ateliers ?
Alors, cet atelier-là, il est en lien direct avec la bibliothèque. C'est-à-dire que la Maison de la Loire est un lieu de ressources, c'est-à-dire qu'elle a un laboratoire, elle a une bibliothèque avec un fonds documentaire qui est consultable gratuitement. Et puis, elle a une bibliothèque forcément qui est tournée vers la Loire au niveau de ses thématiques, mais également au niveau de son usage. Ce n'est pas une médiathèque, ce n'est pas un lieu dans lequel les gens viennent chercher n'importe quel ouvrage. Mais elle est très en lien, puisque les animateurs l'utilisent pour déterminer des animaux, des végétaux. C'est une bibliothèque de Maison de Loire, en fait. Et donc, elle est à l'interface du laboratoire, du terrain. Donc, l'idéal, hein, dans les utilisateurs, c'est quand nos adhérents viennent emprunter des ouvrages, mais surtout quand les personnes trouvent des choses en Loire, ils se questionnent et ils vont servir des ouvrages que l'on a pour identifier. Donc, c'est un petit peu dans cette démarche-là. Mon carnet de nature, c'est essayer de montrer aux enfants, au travers du livre de détermination, au travers des guides, qu'il faut être curieux. Et il faut être curieux, mais se comporter avec une certaine valeur. On parlait des insectes tout à l'heure. Mais alors, le but, c'est d'emmener les enfants et, par le carnet nature, de susciter de leur part, d'abord, un intérêt envers la nature, une maîtrise de la collecte, c'est-à-dire pas tout capturer, pour posséder, c'est-à-dire on peut découvrir, on peut entre guillemets noter, enregistrer, mémoriser sur le papier, sans là encore sans tuer, sans vouloir absolument posséder, attraper. Donc il y a tout un tas de messages que l'on fait passer. Le carnet étant l'outil propre au naturaliste qui va aller sur le terrain et qui va noter, voilà, à tel jour, à telle heure, j'ai vu ça. Enfin, je pense avoir vu ça. Donc du coup, ça va susciter un comportement de curiosité, mais aussi de protection. Donc, c'est plutôt le carnet est un outil. Alors, évidemment, il y a un petit carnet qui est remis. Bon, ça vole pas très haut, mais il y a un petit carnet qui est remis. Mais le but, c'est de dire, finalement, un enfant qui va... Quelle idée se fait-il d'un carnet de nature ? Comment ce petit naturaliste en herbe va réagir, va se comporter sur le terrain ? Et nous, c'est encore, il y a une dimension éduquée, sensibilisée, et tout en étant sans interdit, c'est-à-dire essayer de chercher, d'essayer d'observer et de voir son environnement et la loi. Mais il y a les deux aspects qui sont indissociables.
Et d'une manière générale, les enfants sont assez respectueux et réceptifs à ces ateliers ?
Grande question. Alors là, on l'a fait, on l'a pratiquement jamais fait cet atelier, c'est un petit peu une nouveauté, mais je peux vous répondre quand même. En termes d'animation, oui, les enfants sont assez respectueux. Après, tout dépend dans quel microcosme ils sont. Hein. C'est les grands qui sont pas toujours, on va dire, respectueux. Mais bon, généralement, ceux-là viennent pas en animation à la maison d'avoir.
Et donc, autre chose, il y a aussi une exposition en ce moment, donc c'est Jean-Pierre Bridonneau qui expose ses photos avec une exposition qui s'appelle « Les visages de la Loire ». Alors, ce n'est pas la première fois que vous accueillez des expositions. Quel est l'objectif de ce genre de projet ?
Alors, l'objectif, c'est de compléter un peu les présentations et les activités de la Maison de la Loire, et particulièrement notre exposition permanente. Donc, c'est d'apporter... une variété, une diversité de thématiques et de présentations. Alors, il faut savoir que le but aussi, c'est de créer des partenariats, c'est-à-dire de permettre à des gens qui ont beaucoup de talent, mais qui ne sont pas forcément connus, ou communiqués en tout cas, de venir à la Maison de la Loire pour exposer et rencontrer notre public. Donc, celui des animations, nos adhérents... Et puis, ça nous permet aussi de compléter un peu la batterie environnementale et de donner l'approche artistique. Bon, ça, c'est un métier. Hein, on peut pas... Donc, que ce soit de la photo, que ce soit de la peinture, de la création textile ou autre, bon, de la sculpture. Le but, c'est aussi de se rappeler que la Loire a une très, très forte dimension artistique qui n'est pas du tout incompatible et qui est même indissociable de la dimension naturaliste. Dès l'instant qu'on vibre pour un oiseau ou une autre espèce vue dans une lunette, je veux dire, on n'est pas loin du comportement de vouloir dessiner, de vouloir s'approprier l'image. On revient un peu sur l'idée de carnet de nature, ça peut aller très loin, hein. Ça peut aller jusqu'au dessin. Et le naturalisme n'est pas seulement le truc, excusez-moi, chiant, qui permet de répertorier, de cocher une espèce. Il y a une dimension d'appropriation. C'est un peu comme quelqu'un qui met l'œil dans une lunette observant un oiseau ou un astre, c'est que c'est un moment de communication avec la nature et l'univers. Et ce moment-là, c'est tellement fort, finalement, qu'il faut le formaliser. Donc chacun, à sa façon, peut le formaliser. Je pense que les gens qui font de la photo animalière, c'est ça. Les gens qui peignent, qui sculptent, les gens aussi qui notent, hein, qui font des comptes rendus. Moi, je suis plutôt un peu de ce style-là. Je suis plutôt le style chiant. Mais néanmoins, de mémoriser quelque chose, c'est pas seulement un acte administratif ou scientifique. C'est un acte aussi d'émotion.
Et justement, est-ce que vous auriez quelques mots à nous dire sur cette exposition ?
Alors, que dire ? Parce que généralement, toutes les expositions qu'on accueille sont quand même belles. Alors, dire qu'elle est plus belle que les autres, ça serait pas sympa. Parce que ça voudrait dire qu'elle est moins belle que celle qui va venir après. Donc, ça m'embêterait. Non, simplement pour dire qu'avec l'exposition, il y a évidemment la réalité des photos, la réalité de ce qui est présenté. Mais derrière ça, il y a autre chose. Il y a le partage des valeurs avec la Maison de la Loire. Bon, Jean-Pierre, comme tous ceux qui exposent dans la Maison de la Loire, partage les valeurs, c'est-à-dire être soucieux de l'image et surtout du comportement qu'on va restituer. Parce que des gens qui font de la photo, il y en a pas mal. Bon, je ne veux pas juger, mais moi, j'en fais pas. Mais je veux dire, je ne suis pas du tout un as là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être soucieux aussi de l'image et le comportement qu'on va restituer. Il ne suffit pas de faire des photos pour protéger la nature. Quand on fait de la photo sur le terrain, il faut être soucieux de la façon dont on se comporte, de l'image. Bon, je pense particulièrement aux photos de nid. Il faut savoir avoir une pédagogie en disant, voilà, j'ai fait telle photo, mais c'est dans tel contexte, etc. Donc, il y a une question de valeur partagée. Avoir envie de communiquer aussi, de faire de la pédagogie, hein, ça, c'est important. Hein. Si on fait des expos pour soi-même, faut pas venir à la Maison de la Loire, hein, c'est clair. Et puis, autre chose qui est très important aussi, c'est la passion qu'on met derrière. Donc, je prends le cas de Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est un amoureux de la Loire, c'est un amoureux de la nature. Et forcément, ça s'imposait qu'il l'expose à la Maison de la Loire. On en est très heureux. Donc, la passion, la sincérité, là encore, c'est un peu une histoire d'émotion. Hein. Ça ne peut pas se déconnecter de ce partage.
Oui, ce sont des choses qui se ressentent quand on déambule du coup dans cette exposition aussi.
Voilà, exactement.
Donc aussi, en septembre, vous avez vos portes ouvertes. C'est le 26 septembre. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de continuer à faire ces portes ouvertes?
Alors, c'est le rendez-vous annuel avec les Montlouisiens, avec notre public, nos adhérents. Alors, bah, c'est important. Cette année, on ne sait pas trop, parce qu'on reste très prudent avec la leçon de l'année passée sur les règles sanitaires qui pourraient bien nous être infligées. Mais on fera une porte ouverte. Alors, dans le format idéal, la porte ouverte pour nous, elle a deux objectifs. D'abord, de réouvrir la Maison de la Loire dans un moment dédié qui ne soit pas celui de ce qu'on fait toute l'année, c'est-à-dire les animations, etc. Donc de dire c'est la porte ouverte. L'autre aspect aussi, c'est de pouvoir mettre à contribution des acteurs de notre réseau associatif, des associations de protection de l'environnement, d'associations naturalistes, pour qu'elles nous aident à faire cette porte ouverte, mais en même temps qu'elles se fassent connaître. Qu'elles fassent connaître et qu'on se fasse tous connaître dans le réseau qui est le nôtre. Mais cette année, donc, je pense qu'on a fait le choix de finalement tout faire par nous-mêmes, parce que c'est très compliqué. L'année dernière, c'était très très compliqué, parce qu'en raison des règles sanitaires, et quand on utilise le terrain, la cour de la Maison de la Loire, l'intérieur, c'est très très compliqué de pouvoir s'assurer des règles sanitaires, des jauges, etc. Donc cette année, on va plutôt dire que c'est une porte ouverte qui va se passer beaucoup à l'extérieur, sous forme de sortie. Donc on doit préparer, mais en tout cas, le thème, il a été choisi, ça permet beaucoup de choses. C'est la curieuse nature, la curiosité. Tout ce qui fait qu'on doit s'intéresser, on doit regarder de plus près, on doit chercher, on doit fouiller, on doit vraiment avoir une attention exacerbée pour découvrir. On disait souvent, on ne peut pas découvrir ce qu'on ne cherche pas. Mais c'est un peu vrai.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et donc, pour finir, à partir du mois d'octobre, vous reprenez les conférences avec une première conférence qui sera sur les amphibiens et reptiles. Donc, ça sera dans le cadre de la semaine de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la semaine de l'eau?
C'est les semaines de l'eau, c'est deux semaines dans l'année qui sont dédiées à l'eau, au cycle de l'eau, à l'échelle de la Loire et de la ville de Montlouis. Donc il y a une partie des actions qui est en direction des scolaires, donc certaines écoles de Montlouis, et l'autre partie en direction du grand public. Pour ce qui concerne des scolaires, les actions se répartissent en quatre modules, deux modules animés par la Maison de la Loire et deux autres animés par le service de l'eau et de l'assainissement. Alors les deux modules animés par la Maison de la Loire, c'est l'eau dans le paysage et la vie dans la goutte d'eau. Bon, en gros, sortie de terrain, découverte des espaces, des collections d'eau de la Loire, et comment elles se connectent au grand cycle de l'eau dans le paysage. Et l'autre module, c'est la vie dans la goutte d'eau. Donc en fait, on a une approche à l'aide d'un dispositif de microscopie vidéo. On fait découvrir la vie, le plancton, les algues, dans la goutte d'eau de la Loire. Et les deux autres modules sont complémentaires, ils sont animés par le service de l'eau et de l'assainissement. C'est de la Loire au robinet et du robinet à la Loire. C'est-à-dire que là, on a fait la boucle complète de l'eau en prenant en compte la Loire, la ville, l'usager. Et puis, il y a un module aussi complémentaire qui est l'intervention de la médiathèque pour essayer d'accompagner ces actions-là au travers du livre, de la lecture de contes, etc. Donc ça, c'est notre projet. Et pour le grand public, donc, on a des animations et on a aussi une conférence. On met au programme une conférence. Donc il se trouve que là, cette conférence concerne beaucoup les animaux des milieux humides, mais pas que. Il y a les reptiles. Bon, il y a les reptiles, il y a les serpents qui vont dans l'eau. Hein. Et donc cette conférence-là, elle a déjà, en raison du Covid, elle a déjà été reportée. Donc on espère que cette fois, on va la faire... on va la faire vraiment. Et donc, dans la semaine de l'eau, ça sera la Société herpétologique de Touraine, qui est l'association qui se consacre aux reptiles et aux amphibiens. Et ce sera l'occasion, dans cette conférence, de parler de l'Atlas, qui est assez récent. L'Atlas qui a été réalisé pour faire connaître ces animaux et leur répartition. Parce que souvent, ces animaux-là, alors les amphibiens, c'est une chose, mais surtout les serpents, et même les lézards, hein, enfin tous ces animaux-là sont des animaux qui font encore partie des mal-aimés. Donc il est plus jamais que nécessaire de les faire connaître et de rappeler qu'ils sont pratiquement tous protégés et qu'ils sont éminemment utiles puisqu'ils vont avoir un rôle de prédateur envers toute une petite faune qui peut être, si elle pullule, dévastatrice. Donc c'est vraiment important. Puis simplement, par au moyen de projection, montrer que ce sont des animaux qui sont passionnants et très beaux, finalement. Parce que bon, la peur, c'est une chose, mais finalement, dès une fois qu'on a dépassé la peur, c'est un peu ce qu'on voit sur les chauves-souris, sur les serpents. Ce sont des animaux qui sont des petites machines de perfection. Quand on étudie leur biologie et leur comportement, on ne peut être que bluffé, à moins d'être arriéré. Donc la peur, c'est une chose, mais on essaie, nous, dans notre démarche, de faire rencontrer justement le public avec les acteurs qui, eux, protègent, vont sur le terrain, constatent qu'effectivement, il y a des dégradations de milieux naturels, qu'il y a des animaux, on parlait de la vipère aspie hein, pas longtemps avec eux, il y a des animaux sur lesquels, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une perte, l'espèce perd un petit peu de ses territoires. Donc certains pourraient penser que c'est bien, parce que c'est les animaux qui font peur, et puis en même temps, ça permet de démystifier... quand même pas mal de caisses de bêtises que l'on trimballe sur le fait que ces animaux-là sont capables de tout. Et... Alors, c'est important ce que je dis, je pense, parce que quand on pose la question de savoir, finalement, est-ce que la Loire est dangereuse ? Est-ce que la Loire est dangereuse ? On parle des sables mouvants, c'est pas des sables mouvants, c'est des dunes, mais il y a d'autres dangers. Est-ce que effectivement on a peur des serpents? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur des serpents? Est-ce que la vocation de la Loire, c'est d'être dangereuse? Est-ce que la vocation de la vipère, par exemple, c'est d'être dangereux? C'est pas une question de vocation, c'est une question de rencontre et de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'en se rendant vulnérable, on s'expose beaucoup plus facilement au danger. Donc déjà, en connaissant mieux son environnement et l'animal, on va déjà éviter... Alors, je prends l'exemple pour la vipère, on va déjà éviter d'aller se balader en tongs dans une prairie. On va procéder autrement, on va taper avec un bâton, on va éviter de mettre la main sous un sac poubelle qui a chauffé au soleil. Enfin, vous voyez, toutes ces petites choses-là, souvent, on se rend compte que ce n'est pas l'animal ou le milieu qui est agressif, c'est la condition de vulnérabilité dans laquelle on se met. Alors ça, c'est valable pour les noyades dans l'Oise, dans Loire, c'est valable pour plein de choses. Hein. Donc ça aussi, c'est un facteur d'éducation qui ne peut pas être dissocié de la protection. On ne peut pas protéger ce qu'on n'aime pas. Et on ne peut pas protéger bien ce que l'on ne connaît pas, et encore moins l'aimer.
Oui, c'est vrai que de toute façon, toutes les peurs, ça reste des constructions sociales. Et puis les animaux sont en état de survie par rapport à l'homme.
Oui.
Donc ça permet aux gens de se rendre compte, je pense.
Voilà. Ce que je dis ne va pas plaire à tout le monde, mais n'empêche que je le dis et c'est comme ça.
Je suis d'accord avec vous.
Merci.
Il y aura aussi du coup une autre conférence le 30 novembre sur le thème de la Loire, une alliée à protéger.
Oui. Alors, le Conservatoire des espaces naturels du Centre, qui est une grosse association qui siège à Orléans, et en fait, c'est un groupe de personnes qui gèrent les espaces naturels préserver ou protéger. Alors, il y a dans leurs investigations, il y a un site, évidemment, qui est le site de Bondésir. En fait, il faut savoir que le Val de Mont-Louis est un des secteurs qui est géré par cette association. Cette association a acheté ou loué des terrains ou a signé des conventions de gestion avec les partenaires. En tout cas, le Val de Mont-Louis est sous la gestion de ce conservatoire des espaces naturels du Centre, sur 9 km, hein, quand même, un tronçon de Loire de 9 km, c'est-à-dire les communes de Vernoux, Vouvray, Vernoux, Noisey, et bon, de l'autre côté, donc Mont-Louis, Lussot et Amboise. Et puis, dans ce tronçon de Loire d'à peu près 9 km, vous avez un site qui s'appelle Bondésir, qui fait face à la Maison de la Loire, qui est beaucoup moins grand, parce que la totalité, c'est 295 hectares. Là, c'est, on va dire, on va être autour de 25-30 hectares. Le site de Bondésir, ou l'île de Bondésir, c'est l'île qui fait face, enfin, la grève, là, le grand secteur qui fait face à la Maison de la Loire, sur lequel on agit beaucoup en animation. Et donc, ce conservatoire n'a pas fait qu'acheter les terrains, mais a un plan de gestion et a essayé de réhabiliter ce que l'homme a dégradé et permettre aussi de réatteindre l'équilibre de la dynamique du fleuve. Essayer de repermettre au fleuve de retravailler les terrains, de restaurer en fait les milieux par son fonctionnement. Donc c'est pas simple, hein. C'est toujours une question de compromis. Bon, je ne vais pas détailler, mais simplement pour dire que cette conférence s'inscrit complètement dans le mode d'action du conservatoire. La Loire a une allée à protéger, c'est-à-dire que le but, c'est de montrer que finalement, préserver le fleuve, ça permet de comprendre les mécanismes de l'environnement et d'apporter quand même des solutions aux grands enjeux qui dépassent la Loire. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, éduquer pour, éduquer par, c'est-à-dire de dire en fait que, effectivement, on ne peut pas dissocier ce qui se passe dans un fleuve, un bassin ou un tronçon de cours d'eau, de l'ensemble. Aujourd'hui, en plus, on est dans une actualité extrêmement, extrêmement problématique là-dedans. On est sur le réchauffement climatique, on est sur les ressources, on est sur la pollution. Je veux dire, c'est un peu comme si on disait on a pollué à tel endroit un cours d'eau, un ruisseau. Bon, ben voilà, administrativement, ça s'arrêtera au ruisseau et ça ne va pas aller dans la Loire. On est dans un ensemble où les choses ne peuvent se comprendre que par interrelation. Donc, en fait, cette conférence, elle va être très importante parce que c'est dans l'air du temps et le conservatoire est actif dans ce domaine-là. Le but, c'est de se dire, voilà, ce qu'on reçoit comme leçon, ce qu'on essaie de comprendre et ce que l'on a comme réponse quand on étudie un fleuve, finalement, en valorisant la gestion d'un espace, en valorisant les milieux naturels, finalement, d'abord, peut-être on active des choses qui font qu'on va trouver des méthodes qui sont transposables ailleurs. Et en même temps, bah, c'est un petit peu, vous savez, comme l'arbre qu'on plante quelque part. Il va avoir un rôle positif pour la photosynthèse, il va fournir quelque chose. Mais ce n'est pas dans l'effet de masse, là. C'est plutôt, enfin, selon moi, hein, dans la compréhension. Mais il faudra venir à la conférence pour qu'on vous explique ça beaucoup mieux.
Eh ben, j'espère que les gens seront nombreux à cette conférence, en tout cas. Merci beaucoup. Du coup, c'est la fin de cette interview. Merci Thierry Pouzy d'être venu nous présenter votre programme du mois de juillet au mois de décembre. Et on peut retrouver ce programme du coup sur votre site internet.
Tout à fait.